C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble pendant deux heures de bonheur à venir avec au menu la suite de la 33e journée de Ligue 1, la victoire de Marseille 3-1 face à Guingamp, la victoire de Nîmes 2-1 face à Bordeaux, Montpellier qui s'impose 3-1 à Strasbourg, Nice qui s'incline à domicile 1-0 face à Caen. On est également en Italie où ça y est officiel, la Juve est championne. Simone Rovera, elle sera avec nous pour en parler. On ira en Angleterre, la course aux tweets au titre se poursuit, la course aux huîtres aussi se poursuit en Angleterre. On sera avec Julien Laurence. Manchester City s'est imposé cet après-midi, Liverpool jouera demain à Cardiff, et puis en Bundesliga, Dortmund jouera demain, mais le Bayern s'est imposé aujourd'hui, le Bayern qui, quoi qu'il arrive, sera leader à l'issue de cette journée. Avec nous dans cet after ce soir, Prince Ali, Ali Benarbia.
Salut Nicolas.
Comment il va?
Très bien.
Toujours aussi élégant.
On essaye.
Non, mais voilà. C'est classe.
Ça contraste ou pas?
Avec Jonathan McCarty?
Je sais pas.
Bonsoir Jonathan McCarty. Bon, oui, il est bien. Classe aussi, non? Enfin, je sais pas si c'est une
idée. Plus jeune.
On va accueillir Anthony Quintela, le grand vainqueur de l'After Academy. Bonsoir. Qui est avec nous ce soir. Ça va toi?
Bonsoir, ça va et toi?
Ça roule?
Bonsoir à tous. Merci, ma première avec Jonathan.
C'est vrai? Alors, ouais. Est-ce qu'il est beau en vrai ou pas?
Ouais, il contracte beaucoup en vrai.
Les muscles?
Ouais.
Tu parles des muscles, hein? Ouais.
Oh, t'as déjà fait avec moi?
Avec toi, ouais.
Oui, exactement.
Ouais.
De quoi tu parles?
Une émission.
Ah oui.
On a le même coiffeur.
Ah oui, bah, je crois qu'on est trois alors. Je vous rappelle, hein, l'émission qui est à suivre bien entendu sur RMC, sur l'application également bien entendu RMC, et puis qui est à suivre également sur RMC Sport News, où vous avez le son et l'image, et donc vous avez Jonathan McCarty et ses beaux tatouages. Hier il y avait combat avec Ludo Bragnac également. Ouais. Tu veux pas contracter un petit peu? Tu veux pas allumer ton micro aussi? Ça peut être bien. Voilà.
Oui.
Voilà.
Comme ça.
Vas-y, fais voir. Ah, c'est magnifique. Non, mais
ça
bien.
Fais ça bien. Non, ouais, c'est bon, c'est
mais embrasse pas les bras, comme tu fais tout à l'heure.
Ce qui reste que pendant les coupures pub doit rester pendant les coupures pub. Ça suffit maintenant.
Il va y aller, tu peux essayer de passer sur c'est le bon. Compte Twitter de la
vie. Cette nouvelle génération, ils ont besoin de tatouages. Hein.
Moi, j'en ai aussi, hein, cela dit.
Ouais,
c'est plus discret, mais.
Sur les fesses.
Moi, pas du tout.
Non.
Si?
Non.
Si?
Pas vrai.
Si? Je l'ai vu la dernière.
Sous la barbe.
Voilà. Je vous rappelle les résultats donc de cette 33e journée de Ligue 1. On vous l'a dit, Marseille s'impose 3-1 face à Guingamp. On y revient dans quelques instants. Supporters de l'OM et de Guingamp, on vous attend au 32-16. Nîmes qui s'impose 2-1 face à Bordeaux. Strasbourg qui perd à domicile 3-1 face à Montpellier. Nice qui s'incline à domicile 1-0 face à Caen. Au classement, le PSG leader avec 81 points, qui pourra être sacré champion demain en cas de victoire face à Monaco. Lille qui est deuxième avec 64 points. Marseille qui est quatrième avec 54 points. On a entre Lille et Marseille-Lyon avec 59 points. Cinquième, Saint-Etienne 53. Montpellier 6-51. Reims 7e, 48 points, c'est autant que Nice qui est 8e. Nîmes 9e avec 46 points. Strasbourg qui est 10e avec 44 points. 11e Rennes avec 43. 12 Angers avec 41. Bordeaux 13e, 38. Nantes 14e avec 37 points. Toulouse qui est derrière, 15e avec 35 points. Monaco, là on rentre déjà dans les places un petit peu plus dures, qui est 16e avec 32 points. Amiens qui est 17e avec 32 points. Dijon qui est barragiste et 18e avec 28 points. Dijon qui n'a plus que 2 points d'avance sur Caen qui est 19e. Et puis Guingamp qui donc est dernier avec 24 points. Ils ont 4 points de retard sur la place de barragiste. Il y avait aussi de la Ligue 2 ce soir. Lens s'est imposé 2-0 à Grenoble. Lens qui est 4e à 4 points de 3. En Angleterre, on le disait, Manchester City s'impose 1-0 face à Tottenham. L'Atlético qui s'est imposé 1-0 à Eibar avec un but de Thomas Lemar. Voilà. En Espagne également, ça joue aussi, le Barça mène 1-0 face à la Real Sociedad.
Égalisation.
Ben voilà,
la Sociedad de Juanmi.
Et ben voilà, Juanmi qui égalise un partout, donc on vient de dépasser l'heure de jeu entre le Barça et la Real Sociedad. En Allemagne, le Bayern bat le Werder à 1-0. Il y a notamment le carton d'Augsbourg 6-0 face à Stuttgart. Hoffenheim est en train de mener
un grand Benjamin Pavard encore.
Oui, il a pas visiblement. Victoire de Hoffenheim pour l'instant, il reste un quart d'heure à jouer, il mène 4-1 à Schalke. Voilà. Et puis un partout, il reste un quart d'heure à jouer aussi entre l'Inter et la Roma. Et Porto, on est à la demi-heure de jeu, mène 1-0 face à Santa Clara. On va débuter cette affaire par le plus important. C'est dans aux Açores. Voilà, c'est
beau.
Pas où l'état.
C'est beau. Aux Açores.
Santa Clara. On commence par le plus important?
Le plus important, c'est les 3 points.
Voilà. L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tiens, Ali.
Oui.
Tu les as préparés ou pas? Je joue en franc jeu.
J'en ai.
Ah, j'en ai. Ok, alors vas-y. On y va, les 3 points d'Ali.
Premier point, on a eu les 2 meilleures attaques, ça m'a plu comme match. Je comprends pourquoi Nice et Caen ne marquent pas beaucoup de buts. Et les Canets, ils adorent la Côte d'Azur, je sais pas si c'est dû à Roland. Mais Monaco et Nice, il a pris 6 points en tout. Donc Caen qui garde la tête encore au-dessus de l'eau. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième point, ben Montpellier. On les avait complètement oubliés. Ils s'étaient un petit peu endormis. Ben, ils croient encore à cette petite place-là, progressivement, de se battre pour cette cinquième place concernant la Coupe d'Europe. Et troisième point, Manchester City qui lâche pas jusqu'au bout et qui gagne encore ce match pour essayer absolument de garder cette place de premier.
On y reviendra avec Julien Laurence. Tout à l'heure, on vous rappelle, demain 17h, il y aura le match entre Cardiff et Liverpool. Cardiff, s'il perd, sera relégué en Championship. Ce sera la dernière équipe reléguée après Huddersfield et Fulham. T'es 3 points ce soir, Jonathan.
On va commencer par Marseille qui prend 3 points en étant très fébrile, mais avec le retour salvateur de Luis Gustavo qui a tout fait dans le match, qui a stabilisé l'équipe dans les moments chauds et qui a marqué l'ouverture du score. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Gustavo revenir dans le 11 olympien, mais cette victoire, elle reste pas non plus ultra convaincante. Le deuxième point, c'est plus que Caen. Enfin, j'ai envie de mettre en avant Brice Samba qui a fait une prestation énorme, et je pense que si Caen est encore un petit peu en vie dans cette course au maintien, c'est grandement en partie grâce aux prestations de Brice Samba. Troisième point, je rejoins Ali, j'avais envie de mettre en avant Montpellier qui est une équipe qui passe un petit peu sous les radars mais qui fait une très belle saison avec notamment le trio offensif avec Mollet, Laborde et Andy Delors. Donc voilà, ils sont encore en course pour jouer une place européenne, donc chapeau à eux, et puis ça serait bien qu'on en parle un petit peu plus.
Les 3 points d'Anthony ce soir, Anthony Quintela.
Moi je t'ai fait 3 points un peu sinoche. Le premier point c'est The Revenant, c'est l'OM, parce que malgré leur saison pourrie, on croyait qu'ils étaient morts, et là avec 2 victoires ils reviennent et ils peuvent encore espérer aller chercher Lyon.
Mort vivant.
C'est ça, exactement. Deuxième point c'est The Descent, c'est le contraire, c'est le même match, c'est Guingamp par contre, parce que pour le coup avec les victoires de Caen et de Dijon, je pense que pour eux c'est cuit. Et le troisième point, c'est je suis une légende et je voulais parler de Cristiano, qui historique, qui vient de remporter le championnat d'Italie, qui est le seul au monde à avoir remporté le championnat d'Italie d'Angleterre et d'Espagne.
Et la Liga effectivement. Et puis la Juve qui devient la première équipe dans les grands championnats européens à remporter 8 titres d'affilée. C'est jamais arrivé dans les grands championnats. On y reviendra tout à l'heure avec Simone Rovera là-dessus. On va débuter cet after par le match de cet après-midi, la victoire de Marseille 3-1 face à Guingamp. Avant d'évoquer ce match, il y a la demi-finale du Challenge européen, c'est du rugby, Clermont face au Harlequins. Julien Théier, bonsoir.
Salut messieurs, c'est le début de la seconde période ici à Clermont et pour l'instant ça se passe bien pour les Clermontois qui sont en passe de rejoindre La Rochelle qui s'est qualifiée un peu plus tôt dans la soirée en finale de ce Challenge européen. Ce sera le 10 mai à Newcastle en Angleterre. Clermont qui mène assez largement face au Harlequins de Londres à l'entame de cette seconde période, 26-8 pour les Auvergnats. 2 essais signés Fritzli et Damien Penaud pour Clermont, un essai de Mike Brown pour les Harlequins. 26-8 donc pour Clermont face aux Harlequins après 42 minutes dans cette rencontre.
Le challenge européen, Julien, c'est quoi? C'est l'Europa League, non?
Ouais, c'est ça, c'est la deuxième Coupe d'Europe. Voilà, c'est la
Donc il y aura peut-être 2 clubs français en finale d'Europa League de rugby, quoi.
Ouais, pour l'instant, on y va tout droit. Ouais. La Rochelle-Clermont, ce serait une finale inédite. Les Clermontois ont gagné 2 fois ce challenge européen en 99, en 2007. La Rochelle ne l'a jamais gagné, donc voilà, il y aura peut-être un vainqueur inédit, c'est la Rochelle. En tout cas, pour l'instant, on se dirige vers une finale franco-française du côté de Newcastle. C'est un peu curieux, mais voilà, ouais, ça sera comme ça.
Merci Julien. Tiens, à vous dire que le Barça vient de reprendre l'avantage face à la Real Sociedad. Jordi Alba vient de marquer et mène 2-1 face à la Real Sociedad. Marseille s'impose 3-1 cet après-midi à Guingamp. Luis Gustavo qui marque à la 4e, Ocampos à la 40e. Bakoto qui est revenu à 2-1 à la 56e. Et puis en toute fin de match, c'est Germain qui a marqué le 3e but de Marseille. L'OM qui revient à 5 points de l'OL, qui s'est imposé hier contre Angers. Vous l'avez suivi avec nous. Guingamp qui reste à 4 points de la place de barragiste. Tiens, on va accueillir Nordine, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Nordine.
Bonsoir.
Bonsoir. Salut Nordine.
Salut.
Bonsoir.
Alors Nordine, t'as pensé quoi de ce match?
Eh ben franchement, je suis pas content parce que bon, c'est vrai que cette année c'est un peu dur. Parce que bon, c'est vrai que heureusement qu'on a eu un joueur qui nous a apporté ses Balotelli.
Alors qu'il était pas là aujourd'hui.
Ouais, mais... c'est bien qu'il a pas joué parce qu'il était suspendu malheureusement.
Ouais.
C'est bien ça.
Oui, oui, oui.
Blessé ou suspendu? Suspendu.
Ouais.
Ouais, suspendu. Et bon, voilà, franchement et tout, ouais, j'ai eu un bon match, mais bon, c'est vrai que c'est sûr que on a raté pas mal de points avec quelques matchs qu'on aurait pu gagner, malheureusement. Et c'est vrai que là, ça va être dur, mais je souhaite de tout mon cœur qu'on fasse le maximum pour arriver déjà. Si on pouvait arriver à être, c'est vrai, 3e, ce serait super, mais bon, c'est vrai que
ça va être tellement compliqué. Parce que, Nordine, je sais pas ce que t'as pensé quand t'as regardé le match, mais très franchement, au moment, quand Garcia fait ce changement encore scandaleux, à la 70e minute, quand il sort Dimitri Payet pour faire rentrer Strootman, L'équipe, encore une fois, là, comme tu dis au match précédent, il y a la frousse qui se transmet, le coach transmet la frousse aux joueurs, et puis là, tu te dis, ben, Guingamp va égaliser. Ça semblait être vraiment écrit. Alors, ils ont manqué de réussite. Il y a cette barre transversale qui échoue à quelques millimètres de Marcus Thuram. T'as Mandanda qui a été, mais d'une fébrilité incroyable encore. Et puis, voilà, faut pas regarder le score, hein, qui est en trompe-l'œil, hein. Le troisième but de Valère Germain est anecdotique. Mais, très franchement, c'est loin d'être convaincant.
Tiens, je te pose la question également à toi, Nordine, et je la pose à vous tous, mais, on avait écouté notamment Rudy Garcia hier, qui expliquait en conférence de presse, bah, qu'il était inquiet par les statistiques, notamment de Marseille à l'extérieur. Est-ce que toi, Nordine, t'as été un peu rassuré par l'OM aujourd'hui, ou pas? Pas plus que ça finalement.
Bon, comme je dis, c'est sûr que franchement, je pense que si jamais il y aurait Balotelli, ça serait vraiment été différent.
Non, mais Nordine aussi, il y avait pas grand chose en face. Enfin, c'est
oui, non, c'est sûr, voilà, c'est sûr. C'est pas une grosse équipe. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai, c'est pas une équipe comme voilà. Je veux dire un peu les gros noms comme Lyon. Voilà, bon, comment sont les verts, ils marchent bien aussi. C'est vrai que c'est vachement dur. Voilà, il y a des belles équipes. Hein,
après,
dire.
Il faut pas enlever au fait le fait que Marseille a fait une première mi-temps plus que correcte. La première mi-temps était intéressante, mais t'as des joueurs en fait qui font du bien dans cette équipe. Ocampos a été suspendu, blessé sur les derniers matchs. Là, il revient. On a beau dire ce qu'on veut de lui, bah il est quand même hyper efficace et il apporte beaucoup pour l'équilibre de l'équipe. T'as Gustavo qui fait son match. Il y a quelques joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer, mais après expliquer cette deuxième mi-temps, moi j'ai du mal.
Mais... Franchement, moi je vois un super joueur. J'arrive pas à comprendre pourquoi Garcia il fait pas jouer Gustavo, mais Gustavo c'est un super joueur.
Il joue là, maintenant.
Il joue. Non, pas ça d'accord. Il a joué, mais bon, il y a des matchs qu'il a pas joué. Je veux dire, voilà, ouais. Franchement.
Ouais, il a été à la cage pendant longtemps.
Il a manqué quand même, je veux dire.
Là, il est là, il est revenu.
Bon, disons que c'est pas le seul qui a été mis de côté un certain temps parce que il y a d'autres joueurs qui ont pris leur place et qui ont fait du bon boulot.
Ça tournait.
C'était surtout ça. Peut-être un certain temps, mais par contre, on sent il y a beaucoup de fébrilité dans cette équipe de Marseille. Tu peux pas passer d'une mi-temps à une autre à reculer comme ça et être acculé dans ton camp. Surtout que si vraiment Marcus Thuram égalise, et là ça se joue quoi, un cheveu, ouais, le ballon il est rentré, il est à l'intérieur. On dit qu'il faut qu'il y a toute la totalité, mais là, ça aurait été peut-être avant, s'il n'y a pas ce signal.
Dans l'intention, on est d'accord.
Ouais, enfin, le fait est qu'il n'est pas rentré.
Exactement.
Mais dans l'intention,
c'est ce qui fait la différence.
On a bien compris ce que tu veux dire, Ali.
Et s'ils égalisent, par contre, j'aurais bien aimé savoir comment Marseille s'en serait sorti à 2-2. Et là, ça aurait été un gros problème.
Après.
Mais, Germain, mine de rien, 2 matchs, 2 buts, 2 victoires.
Et après, avec des si on refait le monde, mais il y a des choses quand même qui sont inquiétantes dans cette équipe. Écoute, j'étais assez content de la prestation de Dimitri Payet lors du dernier match. Je l'ai trouvé plutôt tranchant, plutôt bon dans ses coups de pied arrêtés. Là, je l'ai trouvé absent. Il a pas fait grand chose dans ce match-là. On a retrouvé le Dimitri Payet qu'on aime pas trop, tu sais, qui manque de rythme,
qui attend juste,
et même les coups de pied arrêtés qui
peuvent attirer. Il a pas réussi.
Florian Thauvin qui est vraiment à la cave. On le dit depuis des mois, mais là, c'est vraiment très compliqué.
Depuis ces déclats, on pensait que ça allait, les déclats sur lesquels il avait dit qu'ils allaient rien faire s'ils allaient en
Non, mais tu sais, en fait, depuis le mois de décembre, il est mauvais. Florian Thauvin, depuis le mois de décembre, il est mauvais. Faut regarder ses stats.
Mais la plupart de ce style.
C'était sa première passe-dé depuis un mois et demi.
Exactement.
L'année dernière, il fait, même quand Marseille était moyen, il était très fort.
Et il m'a amené Marseille,
cette année,
hors de
il
l'eau.
Suit un petit peu l'équipe quand ça va pas.
Non, mais c'est pire. Ali, c'est pire. Il est vraiment.
C'est pas
incroyablement.
C'est pire,
il est transparent.
Il était arrivé à un niveau à un moment où il sauvait toujours l'équipe. Donc, tu t'habitues à avoir un Thauvin qui était un petit peu le Zorro.
Non, mais là, il est même pas moyen, Ali. Il est vraiment mauvais.
Ali, tu le trouves moins bon depuis quelques semaines maintenant, Thauvin.
Oui.
Non, complètement.
Mais comment tu l'expliques, toi, ça? Je pense que c'est lié à quoi?
Moi, je pense qu'il suit. Il suit l'équipe. Avant, il se battait. Là, il suit l'équipe. Et je pense que psychologiquement, dans sa tête, il a lâché dans le sens, il s'est dit,
voilà.
Je vais pas faire avec Marseille ce que j'aurais voulu.
Ça,
pour l'équipe
d'accord.
de France et toutes les ambitions. Non, mais... Donc, il est temps que je m'en aille. Mais le problème, si tu veux partir, il faut être bon sur le
terrain. Mais alors, moi, je lui mets une petite circonstance atténuante, c'est que s'il y a un joueur qui a prouvé qu'il aimait l'Olympique de Marseille.
Ah, c'est lui.
S'il y a un joueur qui
les a sauvés,
était au bout de son histoire avec l'OM et voilà, c'est Florent Thauvin. Après, moi, je suis pas d'accord de poser la question, est-ce qu'il est moins bon? Non, il est pas juste moins bon. Il est vraiment mauvais.
Il est vraiment mauvais
et c'est un petit peu ennuyeux parce que c'est censé, c'est potentiellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe.
On remercie Nordine, on accueille Morad, d'autres supporters de l'OM qui nous appelaient au 32-16. Salut Morad, bienvenue dans l'After.
Salut à tous.
Salut Morad.
Ça va?
Salut.
Ouais, et toi Morad?
Bah, écoute, je sais pas si c'est le stade d'être désespéré ou de me pendre, parce que je suis papa, donc.
Bravo.
Non, c'est.
Félicitations.
Merci, c'est gentil. Je trouve vraiment gentil avec l'OM, sérieusement. Je vous trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vraiment
dans
gentil.
Quel sens?
Bah, dans le sens de dire qu'on a fait une bonne mi-temps, c'est Guingamp en face, déjà. En respectant Guingamp, bien sûr, c'est Guingamp en face. De deux, quand on voit le calendrier de l'OM, je vois pas comment ils peuvent faire un sans faute.
C'est simple, ils vont jouer contre Lyon et il y aura Rudy Garcia sur le banc. Top 3, défaite et défaite obligatoire.
T'as cette opportunité revenir sur le sur un match où personne n'y croit.
J'aimerais juste comprendre quels sont le jeu, avec quel milieu de terrain, comment. Parce qu'en fait, ça fait quand même deux ans qu'il est là. J'ai fait 14 ans de foot, j'ai fait un certain niveau, je me dis, il y a quel moment, c'est quoi son concept de jeu en fait? En fait, ça fait depuis 2 ans, je me pose la question quand je regarde Marseille avec Rudy Garcia. Voilà. C'est quoi le concept en fait?
Mais Morad, tu peux pas dire qu'on l'a pas dit. Moi, je lui tape dessus depuis le jour où il est arrivé, parce que je savais que c'était pas un bon choix. Mais c'est là, Morad, juste là où tu mets le point juste.
Contre Guingamp, on fait une bonne première mi-temps. C'est catastrophique. Enfin, moi, à part des éclats, entre guillemets, de Campos qui s'est démené, et pourtant, j'aime pas le joueur, hein. Dieu m'en était moi, je l'aime pas. Il s'est démené. Payet, il prend un salaire monumental.
Quand t'es fan de l'OM, dire que t'aimes pas Lucas Ocampos, c'est quand même difficile, parce que on peut ne pas aimer son style, mais tu dois au moins respecter l'engagement qu'il met. Parce que c'est un des seuls qui vraiment laisse sa peau sur le terrain.
Il a un déchet technique anormal pour un joueur de Ligue 1. Tu peux me dire ce que tu veux.
Mais il est exemplaire dans son comportement. Et on en est là, à Marseille, en ce moment. On en est là à se satisfaire d'avoir des guerriers.
Il a une abnégation. Je te rejoins à 10 000%. C'est ça que je te dis. Franchement, ce mec, il se donne, il n'y a pas de problème. Mais il est limité techniquement.
Mais ça, on est d'accord. Personne t'a dit le contraire.
C'est possible. Avec des joueurs comme ça, on peut pas aller chercher ni la troisième.
Mais par contre, Morad,
il est pas là, tu le vois.
Morad, je suis d'accord avec toi dans le sens où un attaquant à l'Olympique de Marseille doit montrer beaucoup plus techniquement que dans l'abnégation, ça c'est sûr. Mais Rudy Garcia se protège avec Ocampos parce qu'il fait un travail énorme pour garder le ballon au niveau des jeux de tête,
au niveau des jeux de pied, à la cave depuis le début de la saison et qui est important pour maintenir les
pieds. Parce que t'es un joueur.
Mais par contre, le problème c'est qu'à Marseille, ça fait un certain temps qu'on n'a pas des attaquants de valeur. C'est ce qui manque à Marseille.
Balotelli, même s'il n'est pas là.
Oui, tu l'as pour 6 mois, Balotelli.
Est-ce que vous vous rappelez de la liste qu'avait Zubizarreta? Et la liste, ok, je pense que Jérémy, tu dois avoir l'info, parce que moi je m'en rappelle encore.
Oui.
La liste, voilà. Toute la liste
avec Rongier et compagnie, oui.
C'était négatif. Mmh. Et sur la liste, il y avait Brahimi, prêt avec option d'achat possible, il y avait Tello, il y avait des joueurs super intéressants, il y avait Arda Turan qui était pour sur le
Il y avait Valentin Rongier aussi, c'était surtout ça, le fait causer le point de friction entre Rudy Garcia et Zubizarreta.
Mais aujourd'hui, je suis directeur sportif de l'OM. Il y a 3 joueurs que je vais chercher en Ligue 1. 3. Comté, le gardien de Montpellier. Aguilar, le latéral.
Le Comte,
qui est extraordinaire. Les deux, c'est des machines. Et le petit Valentin Rongier. C'est les 3 que je vais chercher.
Mais le problème, c'est devant. Le problème, c'est devant. Mais là, on se projette un petit peu trop.
Parce que de toute manière, déjà de la saison prochaine.
On sait même pas ce qui va advenir de Zubizarreta. Pas ce qui va advenir de Rudy Garcia. Donc,
justement, les gars, on va écouter, Valère Germain, alors qu'il a été buteur, qui a marqué le 3e but de l'OM, donc en toute fin de match dans le temps additionnel. Réaction après la rencontre. On lui a posé la question, Valère Germain. Est-ce que l'objectif, c'est la Ligue des Champions pour la saison prochaine?
Je vous laisse le dire, je vous laisse l'écrire. Nous, on sait où on va aller maintenant. On garde nos objectifs à nous dans le vestiaire et on vous laisse parler de ça.
On se doute que si vous voulez aller quelque part, c'est forcément là.
C'est sûr qu'on ne veut pas être quand on est en Europa League, mais je vous laisse le dire.
Évidemment qu'ils y pensent, c'est ce que je disais. On est d'accord que Rudy Garcia, il y a pas de jeu, c'est dégueulasse. Mais maintenant, il y a une saison à finir, il reste 5 matchs et ils reçoivent Lyon, ils ont cette chance-là. Je suis désolé, il y a un petit espoir, même si ça joue pas bien. Avec l'état de Lyon en plus en ce moment, t'as un petit histoire que en les recevant au Vélodrome sur un match avec le public,
il y a Saint-Etienne aussi qui revient.
Bien sûr.
Fort.
Mais toi, t'as l'avantage d'avoir une confrontation directe avec l'OL.
Quand tu regardes dans les dynamiques, c'est Saint-Etienne qui a la meilleure dynamique actuellement. Depuis qu'ils ont enfin mis la tête à l'endroit et mis Berich devant, ils ont un système qui marche bien. Mais là, moi, ce que je me demande, c'est j'ai hâte de voir la composition de Rudy Garcia pour le prochain match de l'OM, parce qu'il va falloir prendre une décision. Il y aura Balotelli qui sera disponible.
Prochain match, c'est Nantes. Hein.
Ouais. Qui va mettre? Alors Gustavo, obligatoire, tu le laisses, ok? Il y a pas de souci là-dessus.
Oui, mais ça va être Germain qui va sortir.
Ben moi, j'aimerais qu'il soit un petit peu courageux parce que Dimitri Payet, cet après-midi, il a été
vraiment
mauvais. Et Germain est pas bon non plus, parce qu'on va, il est nul aussi, mais il est moins nul.
Je passe pas Capaille jouera. Il jouera avec Thauvin, Balotelli et Ocampo.
Mais donc, alors, est-ce que c'est pas Thauvin qui devrait peut-être laisser un peu au repos, là? Faire souffler.
Non, il débutera avec Thauvin, parce que, Thauvin a beaucoup plus de rythme que Capaille, même s'il est pas bien. Et pour, à domicile, faire la différence, il va compter sur un Thauvin.
Il a plus de rythme, il est peut-être crevé aussi, Thauvin.
Il est mort. Il a plus rien. Mais fais-le souffler, essaye de mettre un Radonjić, essaye de mettre Clinton Enge.
Ah, Radonjić, c'est bon.
Ah, Radonjić, il a montré des choses.
Non, mais le jour où tu diras que les dimensions du terrain, elles s'arrêtent un peu plus court, il a.
Je veux bien
continuer, il va prendre l'autoroute.
Mais moi, la question, c'est de savoir qui est le prochain choix, en fait. Parce que là, quand tu, il y en a aucun qui me convainc vraiment. Germain, c'est pas parce qu'il marque qu'il a sa place dans le 11.
C'est ce qu'on lui a demandé, un certain temps.
Mais il marque à la 91e minute, ça va. Il est pas,
ce troisième but est important.
Il est transparent encore. Il est encore transparent. Les deux sont mauvais, donc on verra ce qui se passe.
On remercie Morad qui nous a appelé au 32-16. On va continuer d'analyser cette victoire de Marseille à Guingamp. Avant, petit détour par le rugby, demi-finale du challenge européen entre Clermont et les Harlequins. Julien Théier, Clermont est bien parti pour rejoindre La Rochelle en finale.
Ouais, il reste moins d'une demi-heure à jouer, 27 minutes et 30 secondes pour être exact. Et Clermont mène de 21 points face aux Harlequins de Londres, 29 à 8 pour Clermont face aux Harlequins. Après 53 minutes dans cette partie.
Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Ali Benarbi, avec Jonathan Macardy, avec Anthony Quintela pour parler de ce Marseille. On sera avec Pierre, supporter de Guingamp aussi, Guingamp qui est dernier à l'issue de cette journée, qui est le grand perdant justement à l'issue de cette 33e journée, et puisque quand c'est imposé, on vous le rappelle ce soir, victoire 1-0 face à Nice. Je vous rappelle derrière les autres résultats, donc Marseille qui s'impose 3-1 à Guingamp, victoire de Nîmes 2-1 face à Bordeaux, et puis Montpellier est allé gagner 3-1 à Strasbourg. À tout de suite pour la suite de l'after.
RMC l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours bien accompagné avec Ali Benarbia, Jonathan Macardy, Anthony Quintela qui était notre vainqueur de l'After Academy. Je vous rappelle les résultats de ce samedi 33e journée de Ligue 1. La victoire de Nîmes 2-1 face à Bordeaux, Montpellier qui est allé gagner 3-1 à Strasbourg, Caen qui s'est imposé 1-0 à Nice, et puis donc Marseille qui s'est imposé 3-1 à Guingamp. Juste avant, petit sondage qui a été lancé par Valérie sur le compte Twitter de l'After.
J'allais le voir tout à l'heure.
Voilà, alors vous savez que pour ceux qui nous regardent pas sur RMC Sport News, vous avez une jolie photo de Jonathan Macardy.
Jolie, ouais.
Très bon avantage. Ses biceps, vous voyez, il est en train de montrer ses jolis bras et ses tatouages également. Et alors le sondage, dans un octogone, Jonathan Macardy vous effraye. Il y aurait match. Je le mets KO au premier round, puisque toi qui es un grand fan de MMA, bien vous êtes 76% à répondre. Je le mets KO au premier round.
C'est beau.
Aucun respect vis-à-vis de toi.
Non, mais c'est beau. C'est beau.
C'est-à-dire, c'est beau.
Bah, c'est, faut y croire, c'est bien. D'accord. Mais bon, 2-3 low kicks dans les genoux, si t'es pas habitué, on va voir si tu me mets KO au premier round.
Tu le mets KO ou pas, allez?
Non, je pense qu'il donne envie à se faire frapper.
Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Ça,
je crois qu'il y a que
bien
ça.
Sûr.
Et on va accueillir Pierre, qui est supporter de Guingamp et qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir, Pierre.
Salut, After, ça va?
Salut, Pierre.
Bonsoir, Pierre. Oui, alors pour toi, oui, vas-y.
John, ma femme dont tu parles très, très souvent, elle a vu les photos sur le compte Twitter. Privé d'After.
Privé d'After?
Privé d'After. Elle peut pas regarder RMC News parce que là.
Bah attends, confiance en moi, Pierre, enfin.
Trop de muscles saillants, trop de.
Mais enfin, mais confiance en toi, Pierre, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, mais bon.
Pierre, si tu veux pas avoir les têtes du tout tournées, t'as pris la photo, tu la mets au-dessus du lit.
Moi, c'est plus cardio, semi-marathon, donc après, chacun son sport.
C'est bien aussi. C'est bien aussi. Allez, dis-nous le match, un petit peu.
Bon, le match, première mi-temps, calamiteuse. Calamiteuse, on continue notre chemin de croix. Des relances à la deuxième division district régional.
Ouais.
Pourri, zéro. Voilà. Un léger sursaut en deuxième mi-temps. Après, moi surtout, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de la présidence de Monsieur Desplats? Voilà. C'est une question qui se pose. La politique sportive, si vous en avez une sous le bras, vous nous la donnez. Surtout au niveau en termes de recrutement. Après, on parlait de mecs qui avaient la hargne, qui se battaient pour le club. La patte Guingampaise, je parle des années après Pogba, hein, après Robin Alouda, tout ce qu'on a pu entreprendre, construire, notre identité Guingampaise, une équipe chiante, dure à jouer, à l'extérieur comme à domicile. Là, cette année, je vois un roux-de-roux endormi, apathique. Des gens qui sont un peu résignés, un peu comme moi, hein, je le cache pas, mais je pose la question de ce qu'on pourrait construire si jamais on descend en Ligue 2. Si on fait une descente en Ligue 2, comme fait 3, c'est-à-dire faire ascenseur tous les ans, ou comme Metz, ça m'intéresse pas. Par contre, si jamais on se dit, bon, les gars, on se prend 4-5 ans, on va construire une formation une identité, un football total, tourné vers l'engagement, l'intensité.
Mais ça, il faut une vision sur le moyen terme. Et là, tu l'as très bien dit. Si tu regardes un petit peu le point, Pierre, le point commun entre, par exemple, allez, on va me dire Caen et Guingamp, qui sont vraiment mal embarqués pour le maintien. C'est deux équipes qui payent, à mon sens, les pots cassés d'une politique sportive désastreuse sur les deux, trois dernières années.
Ce qui est frustrant, c'est que cette politique sportive qui fonctionnait, on l'avait avant. Donc je sais pas si Le Graët avait la recette à tout.
C'était un peu une gestion à la papa, mais c'était sérieux. T'avais toujours une équipe avec des joueurs intéressants. Tu faisais deux trois bons coups sur le marché des transferts. Mais là, par exemple, tu vois, enfin moi il y a une chose que j'ai pas compris cet été.
Ndong.
Ndong, ça pour moi c'est pas du tout un bon joueur de foot. J'en parle à chaque fois. Mais bon là, Lucado était blessé. Bon, peu importe. C'est le cas Salibur. Qu'est-ce qui c'est, pour quel intérêt? De vendre, ils l'ont même pas vendu, c'est un prêt avec option d'achat, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Prêt avec option d'achat à Saint-Etienne. Quand t'es Guingamp, d'où tu montes ce genre d'opération? T'as besoin de rentrer des liquidités?
Ouais, mais après, tu sais,
t'es déjà à poil, t'as besoin de
vendre. Joueur.
L'argent viendra après.
Il était demandé, Salibur. Voilà. Tu pouvais lui trouver une autre porte de sortie. On parle pas d'un joueur qui avait pas d'offre. Il y avait pas que Saint-Etienne qui était sur le coup. Donc, j'ai pas compris leur mercato. J'ai pas compris le recrutement. Et puis, t'as des joueurs dans cette équipe qui sont pas au niveau du tout.
Tout ça rentre dans l'incohérence des plats depuis plusieurs années. On ne prend pas de risque sur le recrutement. On prend des joueurs qui ont eu des belles saisons, mais qui sont sur le déclin. Mmh. Et puis voilà quoi.
Exactement.
Et puis après, on a Étienne Didot qui fait le taf en deuxième mi-temps et qui fait à moitié meneur de jeu sur la fin, qui distribue des ballons.
Il a été très bon. Mais c'est pas le travail. Ouais, Pierre, c'est pas le travail de Didot, ça c'est clair.
Mais non, ce qu'il fait.
Et par contre, tu revenais sur Guingamp en fait. C'est quoi? Qui est à l'image? C'est l'équipe qui a l'image du public ou vice versa? J'ai jamais connu Guingamp ne pas supporter son équipe depuis ces derniers temps. C'est-à-dire que même quand l'équipe jouait mal, gagnait ou perdait, t'avais toujours le public qui était derrière. Mais maintenant, je ne reconnais plus ni l'équipe qui joue à la façon de la Navan Guingamp, ni le public. Donc,
Ali,
il a dû se passer ces quelque chose ces dernières années.
Ça va un peu mieux depuis que Gourvenec est revenu.
Oui, mais comme je
pas
disais,
encore, on va poser la question à Pierre. Pierre, depuis que Gourvenec est là, est-ce que tu as ressenti un changement total ou est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau du jeu ou pas du tout?
Ça, on est d'accord, c'est autre chose.
Au niveau du jeu, oui, enfin, ça reste encore des choix hasardeux. Je comprends pas qu'un mec comme Blas, comme Benezet soit pas sur la feuille de match.
Il est blessé, Benezet.
Oui, c'est sûr. Mais après, il y a eu plein de matchs dans l'année où
il ne le faisait pas jouer.
Juste pour en revenir quand même à Salibur, pour recontextualiser, il est prêté le 31 août, donc ça veut dire que c'est dernier remplacement, et c'est un prêt payant, c'est pas un prêt avec option d'achat. Donc si le mec se barre le 31 août et qu'il est prêté, c'est parce qu'à ce moment-là, Guingamp a pas d'autre solution et Salibur non plus.
Il voulait se barrer.
Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait d'autres offres, mais lui voulait absolument aller à Saint-Etienne. Et Guingamp, moi je suis désolé, c'est Guingamp, le club qui a les droits du contrat du joueur, aurait pu faire autre chose.
Pas si le joueur ne signe pas, contre son gré, etc.
Si le joueur ne veut pas signer, tu fais rien du tout.
Je trouve que c'est quand même mal géré, cette histoire de Salibur.
Pierre que ça.
Parce que je sais que vous, cet été, on avait plein de fois avec Guingamp qui ne comprenait pas.
Non mais Pierre, il faut absolument que Guingamp retrouve, quand on parle de valeur, je veux dire, mais cette équipe-là, où on ne connaissait pas beaucoup de joueurs, mais par contre, qui avait une valeur collective,
qui devenait,
qui faisait que Guingamp était présent.
Je vais vous donner comment les grosses valeurs de Guingamp, c'est la ferveur, l'intensité, jamais rien lâcher. C'est ce qu'on avait. On n'a jamais eu de magicien à Guingamp.
Ah, t'as eu des bons joueurs à un moment.
Anthony met deux buts, il en a deux cette saison, c'est catastrophique.
Après, il a passé des charges.
Rien faire avec
Anthony. Il a
eu beaucoup de blessures.
Il a eu beaucoup de blessures. Il a pas beaucoup de ballons.
Mais franchement, il m'a fait de la peine, il rate tout, c'est une catastrophe.
Ils ont
Thuram.
Non, mais par rapport à avant, ils ont plus d'individualité, des joueurs qui sont capables individuellement de faire des choses, mais par contre, c'est collectif. La force de Guingamp, c'était quoi? Collectivement, et avoir un ou deux joueurs qui faisaient la différence. Là, c'est le contraire.
Ali, te rappelle pas, il y a quelques saisons encore, il y avait une attaque qui était assez séduisante, avec Beauvue, Coco,
Salibur. Ce que dit Ali, c'est intéressant, parce que les joueurs faisaient des efforts les uns pour les autres. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui partait devant, l'autre compensait. Et il n'y avait pas d'individualité vraiment marquée. Et là, bah, ce que je vois, c'est que bon, bah, si on fait un, si on, quelqu'un fait un truc pour un autre, entre guillemets, il faudra qu'on lui rende l'appareil. Enfin, c'est pas un collectif finement huilé, quoi. Enfin,
la preuve, c'est que tu comptais surtout chaque fois sur Thuram pour qu'il fasse quelque chose. Bah, sinon, il n'y avait pas de Guingamp.
Prochain match de Guingamp, ce sera à domicile face à Caen. Match qui sera très très important pour l'en avant. Guingamp, on rappelle finale, Guingamp qui est dernier avec 4 points de retard sur la place de barragiste, 4 points de retard sur Dijon. On remercie d'ailleurs Pierre qui nous a appelé au 32-16. Et on va accueillir Mathieu, supporter de Guingamp, de Caen justement. Caen qui s'est imposé 1-0 à Nice ce soir. Alors c'est vrai que sur le, enfin, quand on regarde le match.
Jackpot.
Ah, et puis jackpot, hold up. On est d'accord, réussi. Mathieu.
Putain.
Pardon. Ouais, bonsoir.
Salut Mathieu.
Bonsoir Mathieu.
Petit hold up ce soir.
Le hold up, pour tout vous dire, oui, j'ai vu la première
merci
mi-temps,
je peux
pas voir la deuxième mi-temps. Mais oui, bah écoute, ça résume bien la saison de Caen, quoi. C'est quand on match, c'est quand on gagne les matchs, c'est que des hold up en fait. Il y a pas de dans le jeu et on a rien. Rien du tout, franchement, ben 1-0 c'est un miracle, hein. Merci à Brice Samba, j'ai envie de te dire.
Évidemment. Ouais.
Heureusement qu'on a un grand gardien dans cette équipe, hein, parce que il fait une fin de saison quand même exceptionnelle, hein, notre gardien.
Bah il arrête penalty encore une fois aujourd'hui. Ouais.
Il est en forme et il tient la baraque. Heureusement aussi, que lui est là, quoi.
Et t'as aussi Djikou qui fait, on n'en parle pas, il fait une grosse saison.
Djikou,
hein, défense
un
centrale.
Très très bon défenseur.
Il sauve tout, c'est impressionnant. Je sais même pas comment il fait pour être à la fois dans l'axe, à gauche, à droite, et en plus là il marque du genou. Donc peut-être ce but-là est très très important pour essayer d'accrocher les barrages.
C'est clair.
C'est clair, il s'est bien rattrapé, hein, parce que le penalty est logique pour Nice. Et il s'est bien rattrapé.
Après, quand on dit hold up, il y a quand même une chose, c'est, on est obligé de parler du match de Nice. Nice, c'est le match typique de Nice, c'est-à-dire Nice joue bien, Nice a des occasions, Nice doit marquer, mais Nice est inoffensif dans la surface de réparation adverse. Donc forcément, ils se sont fait punir et cette victoire cannaise, c'est plus Nice qui leur laisse. Parce que Nice doit gagner ce match 2-3-0 s'ils ont un attaquant un tout petit peu à droit. Mais là, ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'attaquant.
Un attaquant qui reste devant le but.
Ouais.
Oui, là, il y a des joueurs qui tournent autour, qui demandent la balle
c'est
pour
clair.
Passer sur les côtés.
C'est clair.
Mais tu n'as pas un point d'appui qui reste juste devant le but pour la pousser.
Et
ce qui leur manque à Nice.
Côté Canet, par contre, alors bon, maintenant c'est trop tard, hein, pour parler de jeu, pour mettre en place des choses.
Non.
Parce qu'il reste plus de matchs, t'as en mission commando. Mais quand même, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'avec les joueurs que t'as, qui sont pas des aigles, on est d'accord, mais qui sont pas si mauvais que ça, notamment devant.
Individuellement, on a au début de saison, j'étais très très confiant parce que au début de saison, quand ça jouait assez bien en ballon, on perdait les matchs, mais il était confiant. Il y avait du jeu, on allait à Dornano, on voyait des beaux matchs. Et là, depuis un certain temps, même depuis pas mal de temps, il n'y a plus rien. Pourtant, individuellement, pas mal de joueurs ne sont pas si mauvais que ça à Caen.
Parce que t'es justement rentré en mode commando, je pense.
Mauvais, hein.
Là, tu joues ta tête, donc t'es rentré en mode, faut prendre les points et peu importe.
Mais tu joues ton avenir aussi personnel, hein. Tu peux briller dans une équipe qui va être reléguée, par exemple.
Non, le problème de Caen, ça a été qu'ils sont rentrés commando très tôt la saison. C'est-à-dire qu'on avait oublié le jeu dès le début. Et automatiquement, c'était juste, il faut qu'on... Oui, mais si on gagne, ça ira mieux. Le problème, mais les victoires n'y arrivaient pas.
Quand t'as Raoui, Ninga, Crivelli, Onyangue, c'est pas... Tu dois pouvoir jouer un petit peu mieux au foot avec ça, quand même. Je suis désolé.
Mais
oui,
un petit peu.
Mais
offensivement, footballistiquement, ces joueurs... Ils doivent s'entendre.
Au vu, Bamou, des joueurs qui ont un peu d'expérience en Ligue 1, quoi. Et qui sont même pas sur la feuille de match. Mais bon,
le problème,
à un moment donné, c'est normal. À un moment donné, faut respecter la direction, faut respecter son métier, faut respecter le coach. Et
lequel?
Si personne respecte ça, bah lequel? Fabien Mercadal, c'est le coach.
C'était ironique, hein, quand je te disais ça, Mathieu.
Les joueurs ne respectent plus Fabien Mercadal. À un moment donné, voilà quoi. Roland Courbis, il est arrivé. Et voilà quoi, ça décrédibilise totalement Fabien Mercadal. Quand on a le palmarès de Roland Courbis et le vécu de Roland Courbis, Fabien Mercadal, il passe à côté.
Mathieu, je pense pas qu'il respecte pas Mercadal. Le problème, c'est que quand ça va pas et que le joueur plus ou moins ne joue pas, bah, automatiquement, quand il voit cette équipe qui est pas bonne et que lui en plus ne joue pas, il respecte plus rien. C'est parce que il sent que lui, il est mis de côté.
C'est vrai, Ali.
Ça, c'est une chose. Par contre, de choisir Kawi, Bamou, Crivelli comme ça, faut pas choisir des joueurs que tu sens plus ou moins qui vont pas pouvoir jouer ensemble. Essaie de recruter des joueurs où tu vas pouvoir les associer.
Ça, c'est une personne.
Mais là, d'un coup, quand ils ont pris un nouveau président, un nouveau directeur sportif, un nouveau coach. Ils ont laissé partir des bons leaders comme Ferré, qui pouvait garder un petit peu l'équipe.
Aussi qui est parti, Dacima, ça leur fait du mal.
Et d'un coup, ils se sont dit, alors, vous allez voir, moi je vais faire mieux que ce qu'ils ont fait ces dernières années. Bah, c'est une catastrophe.
Devinez qui est avec nous en direct dans l'after, Roland. Les gars. Eh bah ouais. Roland Courbis nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'after. Bah, il est à la maison en même temps, il est à domicile, Roland. On rappelle, quand donc il s'impose 1-0 à Nice, quand il revient à 2 points de la place de barragiste avec ce succès. Bonsoir Roland.
Oui, bonsoir les amis.
Salut Roland.
Bah, félicitations d'abord Roland.
Oui, bon, un match pénible, une première mi-temps très moyenne. Mais allez, on s'accroche tout en étant très moyen par moment.
Alors nous on disait Roland que c'était un hold-up, un petit hold-up de la part de Caen. T'es d'accord avec ça ou pas?
Oui, mais quand on nous emmerde dans la préparation d'un match et qu'on le perd, c'est tout à fait logique. Quand on gagne, c'est un hold-up, c'est compliqué pour nous.
Ouais. Quand tu dis on vous emmerde dans la préparation du match, tu penses à quoi?
Au match d'Angers.
Ben, au match d'Angers, vous faites esprit ou quoi?
Ouais. Non, on l'a bien en tête, t'inquiète pas. Ouais.
Alors, ce qui serait bien en fait, Roland, c'est que t'as joué à Monaco, à Nice, il aurait fallu qu'il y ait quoi? Cannes, Toulon, et normalement, hein, c'est bon, tu te maintiens.
Ouais, mais bon, on s'est déjà mis d'accord, là, on reçoit le calendrier, et quand même bizarre, on reçoit Dijon et on va à Guingamp. Donc on va se préparer psychologiquement, en pensant que ces matchs-là se jouent sur la Côte d'Azur, et là je plains Dijon et Guingamp.
Et Roland, justement, est-ce qu'on a raison de dire que là, sur ces deux matchs, il y a intérêt à prendre 6 points, parce que derrière, il y a quand même du lourd?
Non, pas obligatoirement. Évidemment que ce sont des matchs beaucoup plus importants que les autres, mais derrière ces deux matchs-là, il restera 9 points à distribuer. Donc j'ai l'impression que, sauf si un des trois craque, et par superstition, je pense que ça sera Guingamp, parce que on n'a que ce qu'on mérite, et quand on déconne et qu'on dérape, le superstitieux que je suis peut dire que ça porte pas chance. Alors, donc ça va se jouer entre Dijon et nous. Normalement, hein, après je peux me tromper, hein, c'est pas impossible. Et ensuite, si un des deux fait des barrages, on pourra se sauver avec les barrages. Mais je vois pas une autre issue que les barrages.
Alors Roland, ôte-nous d'un doute, parce qu'on regardait le match tout à l'heure à la télé et le diffuseur, l'un des journalistes du diffuseur, expliquait que t'avais eu une petite explication un peu, on va dire...
Viril,
un peu tendu, avec Fabien Mercadal à la mi-temps du match. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Il faudra me montrer quand et où et pourquoi. Non, on échange 24 heures sur 24. On avait évoqué plusieurs possibilités de changement en fonction aussi des événements et en fonction du score. Donc là, on n'était pas d'accord en ce qui concerne les 5 minutes à faire le changement. Mais bon, je vois rien d'extraordinaire. Là aussi, on va pas se prendre pour les sélectionneurs de l'équipe de France, mais quand on a deux entraîneurs qui discutent, que ce soit oui. Didier Deschamps ou Stéphane, que ce soit Laurent Blanc ou Gattis.
Dans le feu de l'action, dans le match, c'est normal d'être un peu chaud parfois.
Et si par exemple je discute avec Mercada, c'est louche.
Non mais en plus c'est dans le feu de l'action, Roland, c'est parfois la politesse, on n'embarrasse pas quoi.
Pardon?
Non mais en plus dans le feu de l'action avec l'adrénaline, c'est pas parce que parfois c'est normal que le ton monte un petit peu, je suppose.
Mais non, mais le problème c'est que si tu me montres une image ou quoi et que le ton est monté,
okay.
Je te dirais j'étais pas du tout dans le match, je ne m'en rappelle même pas une seconde.
Roland,
avoir appelé Fabien sur un truc en gueulant le nom de Fabien, oui, mais bon, je peux pas le débaptiser, il s'appelle Fabien.
Roland, un mot sur Claudio Beauvue. Qu'est-ce qui s'est passé alors finalement, Claudio Beauvue? Et est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va prendre l'entraînement? Est-ce qu'il est écarté jusqu'à la fin de la saison? Pourquoi il a pas été convoqué aujourd'hui?
Il y a eu un malentendu, un retard, donc qui aurait pu être évité, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Bon, en ce qui me concerne, rien de grave, mais bon. Le club a décidé ça. Nous nous occupons du groupe. Nous donnons notre point de vue. Et c'est pas nous qui décidons de certaines choses ou d'un éventuel problème de discipline. Donc, il est arrivé en retard, il a fêté un anniversaire une semaine où on venait de perdre contre Angers. Ben, le club n'a pas été content, mais il n'y a rien de grave du tout.
Merci beaucoup Roland d'avoir été avec nous. Encore bravo pour cette victoire.
Bonne chance, Roland. Ouais. Les bisous, Roland.
Et merde pour la suite, hein, Roland.
Mais bon, il va falloir quand même s'améliorer un petit peu dans les matchs à venir, parce que la première mi-temps est vraiment très, voire trop moyenne.
Il y a la marge, Roland.
Mais bon, on sait aussi que notre meilleur joueur était malheureusement suspendu. Mm-hmm. Donc je parle de Faisal Farge. Et nous le récupérons pour Dijon. Il sera effectivement le bienvenu.
Oui. Parfait.
Merci Roland, bonne
bon
soirée
courage,
à toi.
Bisous,
salut Roland.
Bonne soirée, bonne chance Roland.
Ciao, ciao Roland. Voilà, victoire donc de Caen 1-0 face à Nice. On va continuer de parler de ce match juste avant, petit détour par le rugby. Demi-finale du Challenge européen entre Clermont et les Harlequins. Julien Théier.
On est entré dans les 10 dernières minutes et ne jamais enterrer une équipe anglaise parce que les Harlequins, ils étaient menés 32-8, ils sont revenus à 10 points de Clermont, 32-22 désormais pour Clermont face aux Harlequins grâce à deux essais anglais. Les Clermontois qui sont un peu endormis, la petite roue d'air là pour les hommes de Franck Azéma, et donc ces deux essais encaissés. Le premier sur une magnifique action, le deuxième essai un peu casquette sur un mauvais rebond mal négocié par l'arrière de Clermontoise. Mais attention quand même aux Clermontois, 10 points d'avance, ça reste confortable à moins de 10 minutes de la fin du match, mais ne surtout pas craquer une nouvelle fois, parce que sinon ils auraient clairement la pression, les Auvergnats, dans cette fin de match. Pour l'instant ce sont eux qui sont qualifiés pour la finale. Il reste 8 minutes 30 à jouer à Marcel Michelin et Clermont mène 32-22 face aux Londoniens derrière le Queens.
Merci Julien. Caen qui s'impose donc 1-0 face à Nice ce soir. Caen qui est à 2 points de la place de barragiste. On était avec Roland Courbis il y a quelques secondes en direct dans l'after. On accueille Pierre, supporter de Caen, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir à vous.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Bonsoir. Pierre. Est-ce que tu es rassuré ce soir Pierre?
Eh ben écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, parce que on a quand même été battre Monaco. Et puis ça nous a réussi la Côte d'Azur. Donc on se refait un petit 1-0 à Nice. Avec un grand Brice Samba encore. Bravo à lui en tout cas.
Très très fort.
Mais je vous avoue que j'étais pas du tout serein. J'ai perdu 2000 euros. J'avais misé pas mal de sous contre mon équipe. Et puis au final,
ça c'est
le karma,
ça. Mais c'est un bon supporter, ça, tu vois.
Et ouais.
T'avais parié 2000 balles ce soir pour Nice, quoi. Contre Caen.
Ben en fait, je devais prendre 2000 euros. Mais au final, si ça peut nous remonter en Ligue 1, c'est bien.
T'avais misé combien?
150 euros.
Ah ouais, ça fait quand même mal. Hein.
Et si tu misais 150 euros sur Caen, tu gagnais combien?
Je pense que je pouvais m'acheter une maison.
T'aurais dû croire en ton club.
Le club, ouais.
Moi, à ta place, j'aurais cru à mon club, 150 euros sur mon club.
Et la superstition, vous savez, tu vas parier pour Dijon la semaine prochaine.
Il y a un dicton qui dit les gens
Dijon disent
oui,
en ce moment.
eBay, ils supportent le stade Malherbe de Caen, et puis oui, on supporte le stade Malherbe de Caen. Donc on espère, on y croit, aller au barrage au moins, et puis essayer de... On n'y croyait pas il y a quelques mois, et puis maintenant,
Du coup, t'as un super match dimanche prochain. T'as un match où tu vas perdre tes nerfs, tu vas tout perdre.
Je mise plus d'argent.
Les gars, le match là contre Dijon, on rigole, mais c'est un match qui est hyper important. Mais par contre, ce qu'il faut bien analyser, c'est que quand, malgré la victoire, n'est pas sur la même dynamique que celle de Dijon. Dijon reste sur deux matchs qui sont deux victoires, mais qui sont très convaincantes dans le jeu.
Oui, il y a du jeu, ouais.
Il y a du jeu.
Mais d'ailleurs, Roland le disait lui-même, on améliore le contenu. Oui. Hein,
quand ça reste ultra poussif, donc très franchement, si tu dois prendre un favori, je sais pas quels seront les coachs, je suis pas un très grand parieur, mais je pense que Dijon sera largement... La cote de Dijon sera largement plus faible que celle de Caen.
Et le problème, c'est que Caen...
C'est très poussif, mais on est, quoi qu'il arrive, on est toujours là, on l'a prouvé.
Non, ça c'est vrai que vous êtes là, mais le problème, c'est que on voit pas le fond de jeu, enfin, pas le fond de jeu, faut pas demander ça, mais on voit pas quelques séquences qui font que...
Mais pourquoi faut pas demander ça?
Tu peux faire...
C'est trop tard,
parce
Nico.
Que ça fait longtemps que Caen, n'a pas de fond de jeu.
Faut pas dire, faut pas le demander, les gars.
Il reste 5-6 matchs.
Non, mais là, ils essayent de se sauver, c'est que sur les points. Donc, il y a quelques séquences, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup de séquences.
Merci à Pierre, supporter de Caen, qui nous a appelé au 32-16. Dans quelques instants, on sera avec Tony, supporter de Nice. C'est vrai, il faut parler de Nice aussi. Pire attaque de Ligue 1. Nice qui s'est incliné 1-0 ce soir face à Caen. On en parle, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, juste après ça. C'est comme ça que c'est.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
À Jonathan Macardy, Anthony Quintela sont avec nous. Vous êtes avec nous également sur le hashtag RMC Live. Vous nous appelez au 3216 pour revenir. Comment?
Fais plus le petit geste.
Tu regardes. Hashtag RMC Live.
On aimait bien avec Alice.
C'est vrai. Mais, on va rire un petit peu. Marseille qui s'est imposé 3-1 à Guingamp. Victoire de Nîmes 2-1 face à Bordeaux. On va l'évoquer dans quelques instants. Strasbourg qui s'incline à domicile 3-1 face à Montpellier. Et puis, on y est dans ce match. La victoire de Caen à Nice 1-0. Et on accueille Tony qui est supporter des Aiglons et qui nous a appelé au 3216. Ah là là. Salut Tony.
Salut les gars.
Salut Tony. Alors Tony, on le disait juste avant là, il y a quand même une stat qui est terrible pour Nice cette saison. Mais c'est que Nice, ils sont 8e, ils ont 48 points, ils sont pas largués au classement. Mais alors, pire attaque de Ligue 1, 23 buts marqués après 33 journées seulement.
Alors on a un beau championnat. Hein.
Tu veux dire, ouais, la pire attaque est 8e quoi.
Bah non, mais il faut savoir dire la vérité. Notre équipe, elle mérite pas d'être à la place où elle est. Normalement, avec ce niveau de jeu proposé, notamment offensivement, on devrait pas être à la première partie de tableau.
Tony.
Oui.
Écoute, je suis désolé de te couper, mais je trouve ça peut-être un petit peu simpliste comme analyse, quoi.
Non, mais c'est pas simpliste comme analyse. C'est moi, je vous ai appelé. On a parlé ensemble plusieurs fois de tout ce qu'il y a de bien dans ce qu'a construit Vieira, notamment au niveau défensif, au niveau des relances, de la possession, de la capacité à contrôler le ballon. Mais à un moment, il faut aller un peu plus loin.
Ouais, ça, oui.
Notamment dans ces matchs-là. Où là, on est vraiment sur une période. Donc, on nous fait croire à l'Europe, on nous dit c'est possible. On est sur un rush où on prend Caen et Guingamp à la maison. Donc, c'est le moment où on doit montrer qu'on est des prétendants sérieux. Mais et c'est le moment où on le montre pas.
Tony, moi ce que je vois, c'est alors si on c'est vrai, on sait, enfin, on va se répéter, mais c'est que Nice. Dans la construction des offensives, c'est pas mal, mais ce qui vous manque, c'est juste un mec pour finir les actions. Et t'en as aucun. Donc ils font un petit peu avec ce qu'ils ont. Et je pense que vous avez très mal. Alors ça fait bizarre de dire ça, parce que j'ai toujours pensé que Nice sur les 5-6 dernières années, rapport qualité-prix, c'était la meilleure cellule de recrutement de Ligue 1. Mais t'as perdu Pléa. Tu t'es traîné comme un boulet le Cabalotelli et tu l'as pas remplacé. T'as personne pour jouer au poste de numéro 9. Et cette équipe-là avec un numéro 9, je demande vraiment à voir parce que dans la construction et dans ce qu'ils font, c'est pas mal. Et pourtant, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais quand même un a priori un petit peu négatif sur Patrick Vieira. Mais force est de constater que dans la construction de jeu et tactiquement, ça se laisse regarder.
Mais moi, je suis d'accord avec toi. On a vu une belle première mi-temps au stade. Mais au-delà du problème du neuf qui est récurrent, en effet, on en parle depuis un moment.
C'est un gros problème, hein.
C'est un gros problème. Mais au-delà de ça, il y a aussi une question d'intensité. En première mi-temps, on a mis l'intensité. Franchement, bon, voilà, on n'a pas conclu les actions, mais on a mis l'intensité. En deuxième mi-temps, on a marché. On a commencé à voir Caen, si tant est qu'on puisse voir Caen. Et franchement, on s'est dit, on va se prendre un corner, on va se prendre un coup franc, on va prendre un vieux contre, ça va être horrible. Et il n'y avait plus rien, tous nos appels ils sont faits vers l'extérieur.
T'as le pénalty
aussi.
Alors
on n'a pas de neuf de métier, mais on n'avait que des appels vers l'extérieur, que des joueurs qui marchaient. Il y avait un problème d'état d'esprit dans ce deuxième mi-temps, c'était criant pour tout le monde au stade, c'était évident. Et ça, c'est pas simplement le problème du neuf qui reste un problème énorme.
Je suis d'accord avec toi, Tony, dans le sens où même si la construction est bien, que le travail défensif qu'a voulu mettre Vieira en place met un certain temps, mais dans l'animation offensive dans les 30 derniers mètres, ouais. Même si tu mets un bon avant-centre, c'est pas suffisant. La preuve, c'est qu'il a été obligé de faire monter Attal comme attaquant, alors que Attal apportait énormément en tant que latéral.
Mais c'est sûr, ouais.
Et tu n'as ni de meneur de jeu, ni de joueur qui se met entre les lignes, ni de deuxième attaquant, ni d'attaquant qui va faire
le problème,
la différence.
C'est que
ça fait quand même beaucoup pour les 30 derniers mètres.
Un joueur comme Cyprien qui est jamais vraiment revenu au niveau.
Oui, mais c'est, pouvait être l'océan depuis c'est un milieu de construction, encore une fois.
Mais je pense, moi, Ali, toi, tu me diras si c'est une saucisse ou pas ce que je dis, mais j'ai l'impression que cette équipe, à force d'attaquer, de se procurer des occasions et de pas marquer, au bout d'un moment dans les matchs, elle finit par décourager, par plus y croire.
Oui,
et je pense que ça doit te mettre quand même un petit coup au moral quand tu as le contrôle, quand tu te procures des occasions mais que tu ne marques jamais. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as plein les bottes, quoi.
Non, le problème,
en plus là, t'as le penalty quand tu viens mettre un coup sur la tête.
Non, mais à l'image de Saint-Maximin, c'est qu'il ne termine jamais les actions en première intention. Alors chaque fois, la plupart des joueurs font la même chose que fait Saint-Maximin, c'est-à-dire de donne-moi le ballon dans les pieds, je vais me débrouiller. Mais quand tu ne joues pas en première intention dans les 30 derniers mètres, tu ne peux pas marquer des buts. Très peu.
Alors justement, tu
t'appelles Messi.
Puisque tu parles de ça et tu vas me dire ce que t'en penses, Tony, je voulais la déclaration de Patrick Vieira après le match, après cette défaite face à Caen. Il y a beaucoup de frustration par rapport au match. On a fait un bon match, mais il y a eu beaucoup de déchets, de mauvais choix dans les 30 derniers mètres. C'est ce que tu disais, Ali, il y a quelques instants. On a manqué de réussite. C'est un match qui résume bien notre saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Tony?
Claire.
Alors, je suis d'accord et je trouve que c'est d'autant plus vrai que toute la saison, on a dit qu'on gagnait dès qu'on marquait un but, on a gagné 1-0 et on sait très bien que dans ce style de jeu, ça rejoint le débat qu'on a vu avec Daniel la dernière fois sur l'identité de jeu, c'est si on gagne 1-0 à chaque fois, au moment où il y a un petit grain de sable qui se glisse, et là c'est un arrêt de Samba sur un pénalty, immédiatement, on sait plus quoi faire et on risque de perdre ce genre de match. Et c'est le problème d'équipe qui se contente du 1-0. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec ce que disait Jonathan à l'instant. Parce que au-delà du fait qu'on essaye beaucoup sans marquer, par contre, dès qu'on marque, on se contente de ce but marqué. Et ça, c'est encore autre chose. Et c'est extrêmement compliqué à vivre. Parce qu'on se retrouve, alors on sait tenir un résultat, mais c'est toujours compliqué. Alors
mais qu'on pourrait attendre Tony, 2-0 à 3-0. Pour moi, c'est lié, hein. Pour moi, c'est lié. C'est que je pense que cette équipe, quoi, à partir du moment où ils mettent un but, ils disent, oh là là, on a enfin réussi à marquer. On va surtout pas essayer on va surtout pas prendre le risque de se faire égaliser parce qu'on sait que ça va être la croix à la bannière pour en marquer un second. Mais dans le fond, je te rejoins aussi.
Jonathan, les joueurs ne pensent pas ça. Quand ils marquent un but, tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se sentent en confiance.
Ils disent, ouais.
Ils gagnent. Non, mais c'est vrai. Ils se sentent en confiance et ils jouent différemment.
Ça ronronne un peu.
Non. Et par contre, non. C'est-à-dire que l'adversaire, lui, change, sort un peu plus. Et par contre, Nice a cette capacité à bien être groupé et à garder le ballon plutôt que d'aller attaquer et marquer des buts en contre-attaque. C'est leur problème. Ils savent pas tuer et partir à contre-attaque parce que je pense que leur jeu est basé surtout sur la possession.
Le problème, au final, c'est on en revient toujours à ça, hein, c'est le problème d'efficacité et de manque de ressources offensives. Mais
merci à Tony de nous avoir appelé. Salut, au 32-16, victoire de Caen à Nice 1-0. C'est terminé au rugby, demi-finale du Challenge européen entre Clermont et les Harlequins. Julien Théier, est-ce que Clermont l'a fait? Clermont rejoindra-t-il La Rochelle en finale?
Ouais, mais ça a été chaud. Score final 32-27, 5 points d'avance seulement pour Clermont au final face aux Harlequins. Les Clermontois qui se sont fait peur les 20 dernières minutes, totalement à l'avantage des Anglais, qui ont inscrit 3 essais entre la 58e et la 79e, mais Clermont avait fait le boulot bien avant et donc Clermont se qualifie pour la finale du Challenge européen. Ce sera donc une finale franco-française à Newcastle en Angleterre entre La Rochelle et la SM Clermont-Auvergne le vendredi 10 mai.
Merci beaucoup Julien, bonne soirée à toi. Voilà, et ça marche, hein, la Coupe d'Europe en rugby, hein. Et deux clubs français en finale, les mecs, hein. Ouais, Clermont et La Rochelle,
on aurait pu avoir ça en Europa League.
Ah bon?
On aurait pu.
Ouais, on aurait pu. On aurait la PlayStation. C'est ce on rappelle les résultats de la 33e journée de Ligue 1 de ce samedi. Marseille qui s'impose 3 à Guingamp. Victoire de Nîmes 2-1 face à Bordeaux. Montpellier qui s'impose 3-1 face à Strasbourg. Nice qui s'incline à domicile 1-0 face à Caen. La victoire de Montpellier à Strasbourg avec notamment un doublé d'Andy Delors. Devinez qui sera avec nous en direct dans l'after dans quelques
instants. Andy
Delors. C'est l'after ou
ça fait plaisir. Bah, c'est un des joueurs que j'aime bien. C'est pas parce que j'ai toujours bien aimé.
Bah tu dis ça à tous les mecs qui viennent.
Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'il pourrait être dans le club avec Ludo du Mondial du Tatouage.
Non, mais il écoute pas là encore, je crois.
Non, mais je te le dis, il pourrait nous rejoindre, Ludo et moi, dans le club du Mondial du Tatouage.
On lui posera la question juste après ça.
Allez. RMC, l'After Foot.